Et nous allons repartir dans Philippiens, continuer plutôt. Hein. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas, depuis avant l'été, hein, on n'a pas ouvert dans, en tout cas, on n'a pas étudié, continué à étudier dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et pour rafraîchir notre mémoire, je vais vous lire tout le chapitre 3. Hein. Il n'est pas long. Tout le chapitre 3. Et si vous n'avez pas encore lu toute la lettre en entier, je vous demande de la lire en entier. Je crois qu'on met 19 minutes ou 20 minutes maximum pour lire toute l'épître en entier. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. C'est même pas le temps de prendre le train d'arriver à Paris, hein, de chez moi. Hein? Donc, vous voyez, c'est pas long. Philippiens chapitre 3. Au reste, frères, donc nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à ce que nous lisons, ce que nous entendons. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous ensemble, mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu nous conduises par ton esprit dans ta parole, que tu nous donnes des cœurs ouverts pour recevoir ce qui vient de toi, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous mettions ta parole en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. Quels sont, selon vous, les marques, une petite question pour vous, les marques de la maturité spirituelle. Hein, si je vous disais, qu'est-ce qu'un chrétien mature, hein? pas simplement qu'est-ce qu'un chrétien, peut-être, hein, mais qu'est-ce qu'un chrétien mature. Peut-être vous avez plusieurs choses qui viennent à votre esprit, mais essayez de penser à cela. Peut-être vous direz, c'est quelqu'un qui est assidûment au temple. Peut-être vous dites, c'est quelqu'un qui a une grande ancienneté dans l'évangile, dans la connaissance de la Bible, je ne sais pas. Peut-être il y a beaucoup d'autres critères qui vous viennent à l'esprit. Eh bien, le passage que nous venons de lire, en tout cas les versets qui vont nous concerner aujourd'hui, concerne la maturité spirituelle du chrétien. Le chapitre 3, dans le chapitre 3, si vous regardez, l'apôtre Paul parle personnellement de lui-même. Hein. Regardez chapitre 3, à partir du verset 4, il dit « Moi ». N'est-ce pas, ça commence comme ça. « Moi aussi, j'aurai confiance en maître, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Et si quelqu'un croit pouvoir, je le puis bien davantage, moi, circoncis, etc. » Le huitième jour. Et puis il dit, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme de la boue. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. J'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui vient de la foi. » Et puis verset 10, il dit, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » On ne peut pas se tromper là, il parle de lui, uniquement de lui, de son ambition spirituelle. Il dit, voilà ce après quoi je cours. Voilà quelle est mon ambition. Voilà ce qui anime ma pensée. Mais tout de suite au verset 15, qu'est-ce que vous remarquez? Il dit quoi? Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Il dit, nous tous qui sommes des... Parfois, vous avez peut-être des parfaits, nous tous qui sommes parfaits. Et le sens ici, bien sûr, ce n'est pas la perfection au sens où on n'a plus de péché, parce qu'au verset 12 de ce chapitre 3, il disait déjà, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. N'est-ce pas? Donc il sait qu'il y a du chemin encore à parcourir. Il n'est pas parfait. Nous serons parfaits lors de la consommation de toutes choses. Mais quand il utilise ce mot ici, parfait, ou parfois vous avez homme fait, il parle du fait d'être mature. Hein, et on a un exemple d'utilisation de ce mot dans 1 Corinthiens chapitre 14. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14, où l'apôtre Paul dit, donc c'est le grand chapitre hein, sur la supériorité de la prophétie, sur les dons du parler en langue, et tout ça. On avait vu ce chapitre il y a quelques années. Il dit ici, verset 20 du chapitre 14 de 1 Corinthiens, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Peut-être que vous avez simplement « soyez des hommes », »,« soyez des parfaits ». C'est le même sens ici qui est utilisé quand il dit « nous tous qui sommes des hommes faits, des parfaits ». C'est-à-dire, donc, et ici, dans ce passage, on voit bien qu'il établit une différence entre quoi? Entre un enfant et un homme. Il dit « ne soyez pas des enfants ». Pas d'accord, la mentalité d'un enfant, le niveau de maturité d'un enfant, sous le rapport du jugement, il dit, mais pour la méchanceté, soyez, voilà, simple comme un enfant, mais à l'égard du jugement du discernement, il faut avoir la maturité d'un homme. Okay. Donc c'est le sens, on pourrait dire, qu'il utilise quand il dit, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, il dit, nous tous qui sommes des chrétiens matures. Donc il s'adresse ici aux chrétiens matures, ou il montre plutôt ce que c'est qu'être spirituellement mature. Hein. Si on vous demandait est-ce que vous êtes spirituellement mature, nous dirions ouais, je crois quand même. Bon, hein. Comment est-ce que, selon ce qui est écrit ici, l'apôtre Paul décrit quelqu'un qui est mature? Donc l'apôtre touche à cette question de la maturité spirituelle et c'est ce sur quoi nous voulons nous attarder ce matin. Les marques, en tout cas à partir de ce texte, de la maturité spirituelle. Quelles sont les marques de la maturité spirituelle? Premièrement, la maturité spirituelle, alors je ne sais pas trouver une autre manière de le dire, mais implique d'avoir la mentalité de Paul. La maturité spirituelle implique d'avoir la mentalité de Paul. Regardez le verset 15, il dit, « Nous tous qui sommes matures, ayons cette même pensée. » Quelle pensée? Bien, ce qu'il vient de développer concernant lui-même, concernant son ambition, n'est-ce pas? Donc c'est cette pensée, il avait commencé au chapitre 2, verset 5, quand il disait « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Puis après, il développe à la suite tout ce beau passage sur Jésus-Christ, son abnégation, son humilité, comment il a quitté sa gloire, etc. Et puis, il donne des exemples de Timothée et puis d'Épaphrodite. Et puis là, il arrive à lui-même en exposant comment il cherche profondément cette connaissance de Jésus-Christ. Comment il est, c'est l'ambition de sa vie. Comment c'est sa pensée, c'est sa mentalité. Et il dit, ceux qui sont matures doivent avoir la même pensée. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui nous le dit à travers l'apôtre Paul, parce que ses paroles sont inspirées. Par conséquent, être mature, la maturité spirituelle, implique d'avoir vraiment cette mentalité de l'apôtre Paul, celle qui est décrite dans ces versets, qui consiste à vraiment rechercher cette connaissance expérimentale de Jésus-Christ, on en a parlé dans les messages précédents déjà, cette communion de ses souffrances et cette conformité à sa mort, cette attitude qui consiste à oublier ce qui est en arrière et à regarder vers ce qui est en avant, à courir vers ce qui est en avant, à cette attitude qui consiste à tâcher, saisir la vocation à laquelle on a été appelé. Et donc c'est la volonté de Dieu que le croyant parvienne à la maturité en épousant la mentalité de l'apôtre Paul. Paul, parce que Paul est l'apôtre de Dieu auprès des païens. Il le dit plusieurs fois, hein. C'est lui que Dieu a établi pour apporter l'évangile à tous les peuples de la terre. Quelqu'un a dit, Paul a été établi pour apporter l'évangile à tous les peuples de la terre, sauf un. Si vous voulez, il parlait pour dire les juifs, parce qu'il dit qu'il a été, l'apôtre Pierre a été apôtre auprès des circoncis, et lui auprès des incirconcis. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas pénétrer l'évangile autrement que par le biais de l'enseignement apostolique et particulièrement de l'enseignement de l'apôtre Paul. On ne peut pas y échapper ici. Il dit ceci, rappelez-vous ce que plutôt le Seigneur dit à Ananias lorsqu'il envoie Ananias voir l'apôtre Paul. Ananias dit, oh Seigneur, cet homme, il a fait du mal à tes enfants, il est arrivé ici avec des lettres pour emmener tous ceux qui croient en toi. Et Jésus lui dit, le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, c'est-à-dire nous, devant les nations, devant les rois de la terre, et même, il ajoute aussi, devant les fils d'Israël, parce qu'il n'a pas non plus manqué de le faire. Et plus tard, Paul dira de lui-même, il dit, et avec Barnabas, je crois, il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur dans Actes chapitre 13, verset 47. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut aux extrémités de la terre. Et donc, être mûr spirituellement consiste déjà à considérer tout l'enseignement que nous avons, la doctrine que nous avons, à partir de ce que l'apôtre Paul établit ici dans les Écritures. Cet homme, bien sûr, s'est vu confier un message de Dieu pour les païens. Et c'est auprès de lui que nous pouvons vraiment lire tous les développements de l'Évangile pour les païens. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres livres de la Bible. Non, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, avait dit l'apôtre Paul à Timothée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit, comment ? Propre, alors, top à toute bonne œuvre, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y parfait quelque part aussi, hein. Il emploie le mot de cette maturité, hein. Et donc ici, il faut bien sûr tout considérer, mais particulièrement, nous avons à considérer, et c'est ce qui est ici présent sous nos yeux, l'apôtre Paul, et particulièrement sa vie. La vie de Paul est le standard de Dieu pour le chrétien. La vie de Paul est le standard de Dieu pour le chrétien. C'est pour cela que la maturité spirituelle implique d'avoir la mentalité qu'avait l'apôtre Paul. Sa pensée qu'il vient de développer ici, concernant sa relation avec Christ, son ambition spirituelle, la communion avec Christ, nous sont données par Dieu comme un standard pour la vie chrétienne. Et c'est ainsi que nous devons le considérer. Il n'y a pas dans l'Écriture un homme pécheur dont la vie, le caractère, les ambitions, les réactions, l'engagement, le témoignage, les renoncements, le rapport à l'Évangile nous soient révélés autant que pour l'apôtre Paul. Prenez Pierre, prenez Jacques, prenez Jean. Vous dites, moi j'aime les évangiles. Jean, quelqu'un m'a dit une fois, j'aime lire Jean parce que Jean était plus proche du Seigneur que ne l'était l'apôtre Paul. Il a vécu à côté du Seigneur. Et proche du Seigneur, l'apôtre Paul l'était aussi. Hein? Mais on n'a pas beaucoup de choses concernant l'apôtre Jean. On a les écrits, mais pas des choses extrêmement personnelles. Leur attitude, quelquefois, quelques attitudes sont données. L'apôtre Pierre dans son reniement, puis après, comment il a pleuré amèrement, ce que Dieu lui a confié. Oui. Mais quand on lit les épîtres de Pierre ou les épîtres de Jean ou de Jacques, ce ne sont pas des lettres qui sont personnelles. C'est pas, hein? Il y a une manière de s'adresser qui sont ce sont des recommandations extrêmement importantes que nous devons toujours considérer, mais il n'y a pas beaucoup de leur vie qui nous sont présentées dans ces épîtres. Tandis que quand vous lisez les épîtres de Paul, et particulièrement celle-là, on a un exposé de sa vie, de ses réactions. On voit ses souffrances, ses pleurs, ses larmes. On voit combien il souffre. Il dit que les églises souffrent. Il souffre aussi. On voit combien il dit on a été, aux Thessaloniciens, je crois, il dit, on a été comme une mère est avec ses nourrices pour vous. Il y a tout son cœur, sa vie, son engagement qui est exposé. Et ça n'est pas simplement pour nous donner une information sur l'apôtre Paul. C'est pour nous montrer ce que Dieu attend de chaque croyant. Parce que cette vie de Paul est le standard même de Dieu pour tous les croyants. Dieu a choisi Paul pour que sa vie constitue notre modèle. Et tout ce que Paul dit ici dans cette troisième épître a pour point, je pense, d'application concernant les croyants, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Regardez. Soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez tous mes imitateurs. Il dit, voilà, moi, circoncis le huitième jour. Voilà ce que j'étais. J'aurais pu mettre ma confiance dans ces choses. Mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai renoncé à tout, etc. Il exprime vraiment cette grande ambition. Et puis il termine en disant, frères, soyez tous mes imitateurs. Et ce qu'il dit là, c'est ce que le Saint-Esprit veut que les chrétiens de Philippe entendent et veut que nous aussi nous entendions. Vous dites peut-être, moi, mon modèle, c'est Christ, et pas un homme. Pourquoi des gens disent cela? Moi, je suis Christ et pas un homme. Ce n'est pas l'apôtre Paul que je vais suivre. C'est Jésus-Christ. Vous savez, souvent, hein, on est là, on pense au modèle parfait, parce que Christ est le modèle, nous dit-on, parfait, c'est vrai. C'est l'homme parfait. Mais Christ n'est pas le modèle de la puissance transformante de l'évangile dans la vie du pécheur. Parce qu'il n'a pas péché. Il est parfait, oui. C'est ce vers quoi nous tendons. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 que le dessein de Dieu, c'est de nous transformer en l'image de Jésus-Christ. Et nous voudrions d'ici sauter à cette image. Mais Dieu dit non. Vous n'allez pas, on ne va pas d'ici à là-bas en sautant par cette image. Il nous donne l'exemple d'un homme comme nous, pécheur, sauvé par la grâce de Dieu, et dans la vie duquel l'évangile triomphe. Et il dit, voilà ce qu'il faut imiter. Il dit, imitez ça. C'est Dieu même qui a choisi que les choses sont ainsi. L'apôtre Paul, je vais vous citer une citation que je vous ai donnée d'Adolphe Monod qui dit ceci. Il dit, le type parfait, nous l'avons en Christ et en lui seul. Mais Dieu s'accommode à un besoin de notre faiblesse en nous montrant aussi des types imparfaits qui, tout en demeurant bien en arrière du maître, marchent fort en avant de nous. Bien comment il dit cela. Ce sont des imparfaits, mais qui sont déjà bien plus loin que nous dans la foi, même s'ils sont bien en deçà de la perfection de Christ. Et Dieu veut que ce soit en imitant ces personnes-là que nous progressions dans notre vie spirituelle. Et donc, tout en étant l'exemple de l'homme parfait, Jésus n'est pas l'exemple de la puissance transformante, comment il faudrait le dire, de l'évangile dans la vie du pécheur. Paul est un tel exemple. Et lui-même, il le dit, quand il parle à Timothée, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité. Il a dit, je suis le premier dans lequel Christ va faire voir en moi toute sa bonté, toute la puissance de l'évangile, toute la manifestation de la grâce. Il le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la présomption. C'est la vérité de Dieu. Il dit, Christ m'a fait miséricorde afin que, Dieu m'a fait miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité. Il ajoute, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Autrement dit, il est le modèle de Dieu, le modèle de vie que Dieu a choisi pour nous, pour que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle. Il est le premier exemple que Dieu met sous nos yeux, et il est le seul qu'il met avec une telle amplitude, on pourrait dire, pour notre croissance spirituelle. Donc la vie de Paul, ses motivations, son ambition, sont données comme un standard pour nous, pour notre vie chrétienne. Et c'est la volonté de Dieu que la pensée qui anime Paul soit aussi celle qui nous anime. Et quand il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, eh bien c'est une exhortation pour chaque croyant à regarder la vie de l'apôtre Paul et à désirer cette même vie, à développer cette même attitude, cette même pensée. On n'est pas dans les mêmes circonstances que l'apôtre Paul, on n'est pas en prison, on ne vit pas à la même époque, mais le caractère qui est décrit ici est celui qui doit être recherché. C'est pour ça qu'il a pu dire après, plus tard, dans cette même lettre aux Philippiens, il dit, « Ce que vous avez appris, ou reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Autrement dit, quand il n'y aura pas de pratique de ce qui a été vu, lu, entendu dans la vie de l'apôtre Paul, il n'y aura pas la présence du Dieu de paix. C'est ce qu'il dit ici. Il dit la conséquence de cette attitude, c'est la présence, la paix de Dieu dans vos cœurs. Ici. Donc, la maturité spirituelle implique de développer la même mentalité, la même pensée que l'apôtre Paul. Et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de cette pensée, mais tout le chapitre 3 et d'autres livres expriment vraiment ce caractère. Deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que la maturité spirituelle implique aussi de demeurer enseignable. Regardez ce qu'a l'apôtre Paul dit. Nous tous donc, reprend le verset 15, qui sommes parfaits, qui sommes matures, ayons cette même pensée. Il ajoute, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons tous de même pas. Si vous êtes en quelque point de notre avis là-dessus. Hein? C'est possible, l'apôtre Paul intègre le fait qu'il y ait des chrétiens de Philippe hein, qui ne soient pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, qui ont un autre avis sur la manière de vivre la vie chrétienne. Et qui pourraient dire par exemple, non Paul, ça n'est pas pour nous, hein. On n'est pas pasteur, on n'est pas docteur, on n'est pas apôtre, on n'est pas implantateur d'église, on n'a pas choisi de vivre comme ça. Nous avons un travail séculier, une famille, on est investi dans des associations par-ci, par-là. Ta vie, Paul, est un sacerdoce. Et nous ne croyons pas que le Seigneur nous demande cela ou qu'il demande cela de nous. Et on peut être tout à fait voilà, honnête et puis dire, non, je pense qu'il y a une autre manière de vivre la vie. On n'est pas obligé d'être aussi extrême que cela. Il y a des gens des fois qui nous disent tu vas aller à l'église tous les dimanches, mais on n'est pas obligé. Dieu n'a jamais dit qu'il faut être à l'église tous les dimanches. D'accord ? Où est-ce que tu as vu ça ? Et là, ben, tu peux prendre un petit peu de temps pour toi. Donc, il y a des gens qui trouvent dans cette petite chose qu'on peut être extrémiste. D'accord ? Et on peut imaginer ici que dans ce que présente l'apôtre Paul sur sa propre vie, on dit, mais c'est quand même loin, hein, quand même. Tout, renoncer à tout. Tout regarder comme de la boue, les mauvaises choses, les bonnes choses, tout, cette éducation qu'il a eue, ce passé, toutes ces choses, c'est, voilà, Dieu ne demande pas forcément cela. Il ne demande pas qu'on ait forcément cette même pensée-là, de renoncement. Et Paul dit, il intègre le fait que des gens peuvent avoir une pensée différente. Il dit, si, en quelques points, vous êtes de notre avis là-dessus, il dit, un avis différent n'est pas un problème. Il dit, Paul ne les brime pas parce qu'ils ont un avis différent. Il dit pas, si vous avez un avis différent, maudit soyez-vous. Non, il dit pas ça. Hein? Il intègre le fait qu'on peut avoir des avis différents sur les choses. Et parce que beaucoup de gens ont des avis différents sur la manière de vivre la vie chrétienne. Comment on doit la vivre, comment on doit, quel cantique on doit chanter, quel type de musique on doit avoir, comment on doit s'habiller, comment on doit faire ceci. Il y a des avis sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et beaucoup, beaucoup diffèrent. Et donc avoir un avis différent n'est pas un problème pour l'apôtre. Penser différemment sur une chose secondaire n'est pas un problème. Bien sûr, il n'est pas question ici sur la question du salut, la justification par à la foi sans les œuvres, hein, ici. Et là, plus tard, enfin, après, il écrit en Romains, il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions ici. Il dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange car Dieu l'a accueilli. Il dit, voilà, on va pas se mettre à faire des bagarres d'opinions. Mais je vous fais remarquer qu'il ne renonce pas à ce qu'il dit. Il ne dit pas ici, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites comme vous voulez. J'ai peut-être tort, peut-être je suis allé un peu loin, c'est vrai, dans ces choses. Il dit, si vous êtes de notre avis là-dessus, Dieu vous éclairera aussi. Il dit, on va patienter. Ce que j'ai exposé et ce que j'ai dit, c'est la vérité. La maturité spirituelle passe par le fait d'embrasser cette même pensée. Vous pensez différemment, il dit, Dieu vous éclairera là-dessus. Mais il ne dit pas, laissez tomber et Dieu vous éclairera. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vous devez quand même développer cette même pensée. Et en la faisant, Dieu vous éclairera que ça, c'est le chemin que vous devez suivre. Il ne dit pas « faites comme vous voulez ». Il dit « ayez cette même pensée, si vous voulez, même si vous avez un avis différent. » Et Dieu vous éclairera là-dessus. Paul implique donc que le chrétien mature garde un esprit ouvert, on pourrait dire, et enseignable. Il accepte la vérité, même s'il n'a pas tout saisi, et il compte sur la lumière future qu'il pourra recevoir et qui confirmera vraiment qu'il l'est, hein, qu'il marche dans cette obéissance. En somme, c'est ce que Paul dit. Il dit, voilà ce qu'il faut penser ici. Et il n'y a pas une autre manière de penser qui soit valable. Alors, vous pouvez avoir un avis différent, mais ce n'est pas parce que vous avez un avis différent que vous avez raison. D'accord ? Il dit, vous pouvez avoir un avis différent. Il ne blâme pas ce qu'un avis différent, mais il dit, ça, c'est la vérité. Il faut vous atteler à cela, et puis Dieu vous montrera que vraiment, ça, c'est la vérité, que votre avis n'est pas le chemin qu'il faut suivre. Et donc, cela suppose vraiment de se laisser enseigner. Il montre donc que l'homme qui est spirituellement mature et désireux d'obéir à la parole reçoit un éclairage plus grand de la part de Dieu. Et c'est ce que Jésus enseigne quand il dit, par exemple, en Jean chapitre 7, verset 17, il dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Et puis il dit « Si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Il est en train de dire ici que la lumière vient avec l'obéissance et le désir de faire la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'agit celui qui est enseignable. Il a ce désir d'obéir. Même si il dit, ah, je vois pas encore tous les tenants aboutissants de cette chose, mais enfin, je vais me soumettre. Et quand il se soumet, Dieu lui accorde, dit l'apôtre Paul, plus de lumière afin qu'il comprenne. Autrement dit, la lumière arrive avec l'obéissance. Le psaume 25 dit, je crois en substance, la même chose. Je vais vous lire. Il dit ici, psaume 25, verset, je n'ai pas noté le verset, verset 12, il dit que « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Okay. » Des fois, on ne sait pas quel chemin prendre, comment faire, quelle décision prendre dans une situation particulière. Et l'apôtre, le psalmiste dit ici que celui qui a une crainte de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui obéit à ses commandements, qui met en pratique tous les commandements qui sont déjà clairs de la parole de Dieu, et qui a le désir de suivre et de marcher pour le Seigneur, il dit Dieu ne le laisse pas sans direction. Il lui montrera le chemin qu'il doit suivre. Et celui-là est un chrétien enseignable, qui va grandir parce qu'il est, il craint Dieu, il veut mettre la parole de Dieu en application. Ce que l'apôtre Paul dit, il dit, il la reçoit non comme venant d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu. Alors il dit oui, si Dieu me dit que l'homme mature grandit en développant cette mentalité, eh bien il va chercher à développer cette mentalité. Peut-être il dit, il y a peut-être une autre manière de faire. Et chemin faisant, il découvrira que ça, c'est vraiment le chemin dans lequel Dieu veut qu'il marche. Il aura une lumière plus conséquente de Dieu, hein, dans sa vie. C'est intéressant de voir ici que l'apôtre Paul dit que c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui va éclairer. Il n'est pas que d'autres personnes te diront la même chose. Il dit, si vous êtes un autre avis là-dessus, pas grave, obéissez et Dieu lui-même vous éclairera. Et c'est cela, demeurer vraiment enseignable. Même si je ne suis pas tout à fait, parfois on a une manière d'agir qui consiste à dire, je ne suis pas convaincu. Voilà, je ne suis pas convaincu qu'il faut mettre un voile sur la tête pour les femmes, par exemple, je prends un exemple. Alors je ne le fais pas, même si à mon église on le fait. Et que je serai convaincu, je le ferai. L'apôtre Paul s'inscrit en faux contre cette attitude. Il dit, tu fais, tu te soumets, et Dieu te montrera. Et Dieu te montrera. L'apôtre Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu. Il y a la foi, l'obéissance initiale, mais il y a la foi, l'obéissance dans la vie qui conduit à une plus grande connaissance. Et ceux qui refusent parfois de se soumettre, alors j'ai pris un exemple, ça peut être d'autres exemples, mais si, de se soumettre à des choses finissent par stagner dans leur vie spirituelle parce qu'aucune lumière supplémentaire ne leur est amenée. Parce qu'ils n'obéissent pas déjà à ceux que Dieu met devant eux. Quand Dieu dit « Honore ton père et ta mère, enfants, obéissez à vos parents », on peut dire « J'obéirai, mais je ne suis pas convaincu qu'il faut obéir à mes parents ». Tu obéis à tes parents. Ouais, je ne suis pas convaincu qu'il faut obéir à un parent qui n'est pas toujours gentil ou qui lui-même n'a pas un bon comportement. Il n'y a pas de condition à l'obéissance. Hein. Tu obéis à tes parents. Et Dieu te révélera plus de choses et plus de certitude dans cette voie, plus de lumière dans cette voie. Donc celui, c'est ce que Paul dit ici. Si quelqu'un est de notre avis là-dessus, Dieu vous éclairera. La maturité spirituelle implique donc de rester enseignable, ouvert, obéissant. Et Dieu révèle les choses au fur et à mesure. Et puis troisièmement, dernièrement, que la maturité spirituelle implique la volonté de marcher ensemble selon la vérité déjà reçue. Regardez le verset 16, il dit « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. » L'apôtre Paul montre ici un point à considérer. Il dit que les croyants de Philippe ils sont appelés à considérer ce qu'ils ont déjà atteint ensemble. On pourrait dire, hein, et considérer cela comme un encouragement à aller plus loin. Considérer à quel point on est déjà arrivé, le chemin parcouru. L'apôtre Paul dit à Timothée, 3, demeure dans les choses que tu as apprises. Et ça, c'est une chose que l'on doit considérer. Le point à considérer, c'est le chemin parcouru, les expériences qu'on a déjà faites dans la sanctification ensemble, les vérités apprises ensemble, ce qui dit à l'église de Philippe, toutes ces choses, vous avez vécu ces choses ensemble. Ne perdez pas ce socle-là. Il dit, considérez ces choses. Il dit, au point où on est parvenu, ici, ce n'est pas le moment de dire, moi, je suis pas d'accord avec ce que Paul vient d'exprimer ici, alors je vais faire comme je veux. Il dit, non, on va considérer le chemin qu'on a fait ensemble et on continue à marcher ensemble dans l'obéissance, en attendant, bien sûr, que Dieu nous éclaire de plus en plus sur deux choses. Alors, on pourrait supposer que, à l'époque de l'apôtre Paul, il n'avait pas toute l'écriture comme nous l'avons aujourd'hui. Hein? On ne pouvait pas aller chercher ailleurs un parallèle, etc. Hein? Parfois, il fallait peut-être attendre une œuvre particulière de l'esprit qui venait et qui amenait sa conviction ici dans les cœurs. Nous, aujourd'hui, nous avons toute la révélation de Dieu pour savoir que cela, c'est le chemin dans lequel il faut marcher. Donc, on n'a pas, si vous voulez, on n'est pas des mêmes circonstances que les chrétiens de Philippe. Mais néanmoins, il faut considérer les choses, les vérités qui sont déjà clairement révélées, hein, et le chemin déjà parcouru. Un point à considérer. Et puis, l'apôtre Paul donne une règle à suivre ici. Il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et le mot traduit par en marchant signifie ici s'aligner, marcher dans la même file. Et au sens figuré, donc il signifie se comporter correctement, mener une vie, se conformer à une norme ou un ensemble de coutumes présumées. Par exemple, ça peut être le règlement intérieur d'une assemblée ou des choses comme ça dans lesquelles on est. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire rentrer là-dedans. Mais pour donner un sens à ce mot, en Actes chapitre 21, versets 23 et 24, nous lisons ceci. C'est des gens qui parlent à Paul et puis qui lui disent « Ouais, tu sais, on dit partout que tu es contre Moïse, contre la loi, et bon, voilà ce que tu vas faire, etc. » Ils lui disent « Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. » Il dit « Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi tous seront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis, et c'est le mot ici, hein, marcher, s'aligner, tu te conduis en observateur de la loi. Tu marches selon les règles. Hein. En Galates 6, 16, il dit, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël, l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui vont suivre, c'est le mot ici, le fait de suivre une norme établie. Et donc il y a une conformation à avoir, un alignement, une règle de conduite à suivre ensemble. Et l'homme mature se conforme à une règle, à un ensemble de règles de conduite qui sont conformes, bien sûr, à la vérité déjà reçue. Il est donc ici question de marcher dans l'obéissance selon une lumière déjà reçue. Et donc, sous prétexte d'attendre l'illumination, d'attendre plus d'éclaircissement ou de connaissance, il ne faut pas baisser les bras et abandonner la marche ou se soustraire à la communion des autres. On peut dire, par exemple, je ne pense pas que le fait que les chrétiens se retrouvent ensemble soit une bonne chose. La communion fraternelle, oui, bon, je ne pense pas que c'est... Et la Bible dit, d'accord, qu'il faut demeurer dans la communion fraternelle. Alors, on va dire, ben, j'attends d'être convaincu de cela. Et quand je le serai, je le ferai. L'apôtre Paul dit, seulement au point où nous sommes parvenus, cette vérité, elle est évidente dans la Bible. Il dit, marchons de même pas, rangeons-nous sous... C'est une même règle. Et marchons ensemble. Obéissons. Le chrétien ne dit pas, je n'obéis pas jusqu'à ce que je sois convaincu qu'il faut obéir. Jamais. D'accord. Il obéit. Et Dieu lui révèle des choses. Et c'est ainsi qu'il doit montrer ici sa maturité. Un problème que nous avons souvent n'est pas le manque de lumière sur certaines choses. Mais notre manque d'obéissance à la lumière déjà donnée. Souvent, notre problème est d'obéir à ce qui est déjà clair. Ce n'est pas tellement le manque de précision, d'éclairage sur certains points de vérité qui constitue notre problème. C'est vraiment le manque de soumission à ce qui est clair, à ce qui est clairement comme un commandement dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ici que l'homme mature, considère vraiment tout ce qui est déjà acquis, le chemin parcouru, les vérités déjà établies, et ils marchent ensemble, les uns avec les autres, de même pas. Je voudrais conclure avec ces quelques mots, chers frères et sœurs. De ce texte-là, nous voyons que Dieu a une vocation extrêmement élevée pour le chrétien. Je ne sais pas quelle ambition nous avons pour nous-mêmes, pour notre vie chrétienne. Mais Dieu a eu une ambition extrêmement élevée pour le croyant. Et il nous le montre à travers la vie de l'apôtre Paul. Il nous le montre à travers la vie de l'apôtre Paul. Une ambition de renoncement, d'engagement, de service, d'amour, de travail. Tout ce qu'il nous montre à travers la vie de l'apôtre Paul constitue, on l'a dit, le standard de Dieu pour chaque croyant. Et nous voyons que c'est extrêmement élevé. C'est extrêmement élevé. Et donc, il ne faut pas regarder Paul comme un tableau à contempler, mais comme un modèle à imiter. Il nous faut regarder l'apôtre dans sa vie comme un modèle à imiter. Il nous appartient de rechercher dans notre marche rien de moins que ce que Dieu a prévu pour nous. L'apôtre Paul dit, je cours pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste, de l'appel. Ce à quoi Dieu m'appelle, je cours après. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous aussi, eh bien, nous ne devons pas viser moins que cela. Parce que c'est l'exemple que nous avons à travers la vie de l'apôtre Paul. Nous devons faire de lui vraiment de son caractère, de sa vie, notre aspiration. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et si nous le faisons, nous sommes certains d'avancer vers Christ. Parce que lui-même, il dit plus loin, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ici. Et puis, je voudrais dire que le chrétien doit demeurer, chers frères et sœurs, enseignable. Sommes-nous enseignables? Une des raisons de notre pauvreté spirituelle est notre manque d'enseignabilité. On pense qu'on est arrivé... que notre opinion ou notre avis vaut autant que celui de l'apôtre Paul. Je n'ai rien à apprendre des autres, ni des parents, ni des aînés, etc. Et comment savoir si on est quelqu'un d'enseignable? Eh bien, c'est notre réaction lorsque l'on nous dit quelque chose ou que l'on nous montre une faute à corriger dans notre vie. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous trouvons tout de suite quelque chose chez l'autre? Ah, mais toi aussi, tu n'es pas mieux que moi. Certes, mais là n'est pas la question. Celui qui est enseignable, il prend toujours comme venant de Dieu quelque chose qu'on lui dit. Il la reçoit, même si l'autre l'a fait, ça c'est un autre problème. Il la reçoit, il dit, il y a certainement une vérité que je dois tirer. Si Dieu a permis que cela arrive, il veut m'enseigner quelque chose. Ne serait-ce que ma réaction à ce que l'on vient de me dire. Peut-être c'est faux ce que l'on a dit, mais comment je réagis à ce que l'on m'a dit? Ah, j'ai réagi mal, mais Dieu voulait m'apprendre ici à travers cela, que j'ai à corriger mon attitude, ma réaction lorsque l'on me parle. Et donc il nous faut considérer, être enseignable, c'est cela. On peut le voir par la réaction que nous avons lorsque l'on nous dit des choses. On peut le voir par comment nous nous exposons à l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais quand j'ai la possibilité d'écouter l'évangile et que je ne l'écoute pas? Je ne viens pas? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'entends? L'apôtre Paul dit, l'apôtre Jacques dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, mais qu'on doit mettre en pratique. Qu'est-ce que l'on fait avec... Quelqu'un m'a dit une fois, oh là, on a entendu des messages déjà en tonnes et en tonnes, et c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que l'on a entendu? Est-ce que l'on est enseignable? L'enseignabilité est une marque de la maturité spirituelle. Alors, soyons ouverts à ceux qui nous disent, frère, dans ta vie, il y a ça. Peut-être il a mal vu, peut-être il a bien vu, peu importe, mais le Seigneur me dit des choses. Et je dois être attentif pour les recevoir. Si quelqu'un dit, ma sœur, écoute, tu ne devrais pas faire comme ça, regarde. Un aîné nous dit quelque chose. L'apôtre Paul, l'Épître aux Hébreux plutôt, dit que nous devons être soumis à nos anciens qui nous disent des choses. D'accord? Eh bien, il faut obéir, être enseignable, c'est obéir à la parole de Dieu. Il ne dit pas qu'ils sont parfaits, il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut qu'on en soit soumis. Est-ce que je suis un chrétien vraiment enseignable? Est-ce que j'écoute plus que je ne parle? C'est un signe sur lequel on peut voir si on est vraiment enseignable. J'écoute, on me parle, j'écoute. Mais si je suis toujours en train d'attendre pour pouvoir placer une parole ou je veux toujours réagir, je ne suis pas enseignable. Si je trouve toujours une justification à ce que j'ai fait, je ne suis pas enseignable. Et le livre des Proverbes parle beaucoup de l'homme enseignable. Je vous lis juste quelques versets. Il dit, « Comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Ici. Et pourtant, n'est-ce pas pour nous de considérer ces choses? Et puis, je voudrais dire aussi que la volonté de Dieu, c'est vraiment de nous éclairer en toutes choses. Mais il éclaire ceux qui sont obéissants à sa parole. Ce que l'apôtre Paul dit ici. Si vous êtes de notre avis, ne vous inquiétez pas, faites cela, mais Dieu vous éclairera aussi sur ces choses. Si nous voulons avoir plus de connaissance, de vérité, d'approfondissement de la vérité de la parole de Dieu, il faut commencer par obéir aux vérités qui nous sont clairement révélées. Il faut obéir pour pouvoir connaître davantage. Que le Seigneur nous aide ici à considérer ces quelques points de la maturité spirituelle. On pourrait en trouver d'autres, mais en substance, celui qui nous est donné ici, c'est celui qui consiste à imiter le modèle que Dieu nous a donné et qui est le standard de la vie chrétienne. L'apôtre Paul, dans cet épître, ne se présente pas comme un apôtre. Hein, parce que vous avez vu, il n'y a pas une seule fois le mot apôtre dans l'épître aux Philippiens. Il commence Paul et Timothée, serviteur du Christ. Et nulle part, on voit qu'il parle en apôtre. Il parle en chrétien affermi. Il parle en modèle de vie chrétienne. Et il dit, soyez mes imitateurs, parce que c'est cela la volonté de Dieu pour notre maturité spirituelle. Donc, que le Seigneur nous aide même à mener une étude de la vie de l'apôtre Paul. Hein, ce serait une belle chose. Voir comment il réagit dans les situations. Et dire, ça, c'est ce que je veux pour ma croissance spirituelle et mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je te demande de, que tu fasses pénétrer encore plus profondément en nous les vérités de ta parole. Oui, nous pouvons avoir des avis différents sur les choses, mais je te prie que nos cœurs soient suffisamment ouverts afin que nous nous soumettions à ce qui est ta volonté. Aide-nous à vivre cela. Nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes. Tu vois tous nos manquements, nos fautes, nos péchés. Nous te demandons pardon et te prions que tu nous aides à regarder au bon modèle, à regarder à la vie de l'apôtre Paul comme tu le veux pour nous, et à chercher à développer ces pensées, cette vie, pour nous-mêmes. Seigneur, c'est toi qui peux faire ces choses en nous. Comme cela est dit même dans cette épître, c'est toi qui as commencé l'œuvre et qui la rendra parfaite pour le jour de Christ. Que nous soyons soumis et que nous nous laissions transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait pour la gloire de ton nom. Je te prie pour ceux qui sont ici dans cette salle et qui ne te connaîtraient pas, afin que tu puisses toucher leur cœur, les attirer à toi dans ta grâce. Et je te prie pour tes enfants, afin que tu leur donnes d'obéir, d'avoir ce cœur soumis, chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom. Amen.